Bonjour et bienvenue sur Mizan TV. Nous recevons aujourd'hui Philippe Pascaud, auteur du livre Le pouvoir du pire aux éditions Max Milo. Bonjour Philippe Pascaud.
Bonjour, comment allez-vous depuis la dernière fois?
Ça va très bien. Alors vous êtes écrivain, vous vous définissez comme un
Petit
scribouillard,
scribouillard.
débrouillard et tenace.
Ouais.
J'ai bien noté.
Quand je m'en redose, je le lâche pas.
Alors dans Le pouvoir du pire, vous faites un panorama des dérives étatiques et oligarchiques de notre époque, où un jeune homme de 34 ans sans expérience est nommé pour gouverner la 7e puissance mondiale. Justement, que pensez-vous de la nomination de Gabriel Attal au poste de Premier ministre? Est-il le symbole d'une époque qui privilégie la communication au travail de fond?
Ah ben, déjà, petite rectification, 7e puissance mondiale, je suis plus sûr que la France soit à ce niveau-là. On a tendance un petit peu à descendre dans les tableaux un peu partout, que ça soit sur
Officiellement, sur le
l'éducation.
plan économique, c'est la
Ouais, mais tu
7e
sais, il y a plein de
puissance.
choses officielles aujourd'hui qui, quand on creuse, on s'aperçoit qu'en fin de compte, les chiffres ont été un petit peu truandés. Et moi, j'ai du mal à croire que la France a le même essor qu'avant. Quant au petit ministre de l'Éducation nationale qui vient d'être nommé Premier ministre, j'ai plutôt l'impression que c'est un gros coup de com' qu'autre chose. C'est uniquement de la communication, comme nous fait le gouvernement depuis 2017. Il fait plus de communication que de travail sur le terrain. D'ailleurs, la preuve, on a déjà vu un ministre, il est 6 mois dans un poste, et puis il dégage tout de suite. La seule chose qu'il fait, c'est l'abaya, je sais pas comment ça s'appelait là. Qu'est-ce qu'il y a eu de fait sur l'éducation nationale? Il y a quand même eu 4 000 enseignants qui manquaient à la rentrée de septembre. Donc, je ne crois pas qu'il va faire beaucoup plus en tant que Premier ministre. Mais par contre, on va le voir beaucoup à la télé, comme ses ministres. D'ailleurs, je suis vachement étonné parce que je les vois tellement à la télé, je les vois tellement dans des émissions de radio, je les vois tellement dans les médias, genre, que je me demande quand même à quel moment ils travaillent.
Au-delà du Premier ministre, que vous inspire la composition de ce nouveau gouvernement?
Je suis effaré. Je suis effaré. Il y a encore quelques temps, au gouvernement, on essayait de mettre des gens propres. Je veux dire, là, je m'aperçois qu'on met même des gens qui sont mis en examen. Et pas n'importe quoi, à la culture. Alors, on avait déjà à la justice un mec qui a oublié de déclarer 300 000 euros, qui a acheté une Maserati dont on ne sait pas exactement comment il l'a payé, qui passe un procès où tout le monde dit, entre guillemets, qu'il était responsable de ce qu'il avait fait, mais qu'en fin de compte, il n'est pas coupable parce qu'il n'y avait pas l'intention d'être méchant. Donc je me demande, c'est quoi ce gouvernement?
Vous parlez de Dupond-Moretti.
Oui, moi je l'appelle pas Moretti, je l'appelle Moriarty. C'est Dupond-Moretti, comme le type qui bosse contre Sherlock Holmes, le méchant là. Donc voilà, Dupond-Moretti, pour moi, c'est le pire des ministres de la Justice qu'on a vu depuis 1958. Il est reconnu coupable des ingérences qu'il a faites en tant que ministre. J'ai bien, il est reconnu coupable, c'est écrit. Mais en fin de compte, il n'est pas responsable parce qu'il n'avait pas l'intention d'être méchant. Je veux dire, mais c'est quoi cette justice? La ministre de la Culture, qui en plus, excusez-moi, les compétences de Madame Dati, tout le monde le sait, c'est pas la culture, hein, c'est pas son cheval de bataille. Elle est nommée ministre de la Culture alors qu'elle est mise en examen dans deux affaires importantes de détournement de fonds.
Que pensez-vous de la nouvelle ministre de l'Éducation et des Sports?
On va en parler pendant 3 heures de ces gens-là, mais comment on peut commencer à gouverner dans un secteur comme l'éducation nationale en mentant, parce que là ils sont en train de détourner, elle s'est excusée, elle voulait pas gêner l'école. Mais non, le problème c'est qu'elle a commencé par mentir en disant parce que après tout on a le droit de mettre ses gosses dans une école privée, il n'y a pas de honte, et jusqu'à preuve du contraire, c'est là où ça me fait beaucoup rigoler, quand je prends la liste de tous les ministres et de tous les présidents de la République, tous défendaient l'école publique en mettant leurs propres gosses dans l'école privée. D'ailleurs, il y a un truc très marrant là-dessus, et je ne le défends pas plus que ça. Je crois que le seul ministre qui a continué à mettre ses enfants dans l'école publique, alors qu'il pouvait royalement les mettre dans l'école privée, c'était un ministre de je ne sais plus quoi qui s'appelait Bernard Tapie. Tous les autres mettaient leurs gosses dans des écoles privées en défendant leur école publique. À mon avis, rien que ça, il y a un non-sens, quoi. Ou tu défends l'école publique et tu mets tes gosses dans l'école publique, ou tu défends l'école privée et tu as le droit. Mais tu ne mens pas en disant que tu es obligé de mettre tes gosses dans l'école privée parce que dans l'école où était ton gosse, les remplacements n'étaient pas faits. Ce qui est vrai de toute manière.
Concernant justement les autres membres du gouvernement, un rapport des comptes publics soulignait le fait que depuis plusieurs années, les revenus fonciers et financiers d'une grande partie de ces ministres avoisinaient les 2 millions d'euros, voire plus.
Ouais, 21 millionnaires au
Comment en
gouvernement.
arrive-t-on là?
Ben, on en arrive là quand il y a une fracture complète entre le peuple et les gens qui nous gouvernent. Aujourd'hui, les gens qui nous gouvernent, ils ne savent même plus ce que c'est que le peuple. C'est des gens qui ont été députés, etc., et qui n'ont jamais travaillé. Ces gens ne savent pas ce que c'est que de faire 4 heures de transport, d'être coincé dans le métro, d'avoir le RERD qui tombe en panne une fois sur deux, de rentrer chez soi, d'être obligé de faire à manger aux gosses, de partir au supermarché, de ne plus savoir quoi mettre dans le frigidaire le 10 du mois. C'est-à-dire, ces gens-là sont complètement hors sol par rapport au peuple qu'ils sont censés gouverner, qu'ils sont censés diriger, dont ils sont censés montrer l'exemple. Comment vous voulez que ces gens-là travaillent pour des réductions d'impôts ils travaillent pour des réductions d'impôts, mais uniquement pour eux. Puisque plus ils ont de capital, moins ils ont envie de payer. Et comme c'est eux qui sont aux manettes, de plus en plus ils votent des lois, et d'ailleurs M. Macron est un de ceux qui l'a plus fait, où ils font des réductions sur le capital, pendant qu'ils pressurent les gens qui travaillent. Est-ce que je suis clair dans mon discours? Et ça, les gens ne s'en rendent pas compte. Et c'est vrai que l'argent entraîne l'argent. Quand vous avez 100 euros, vous le placez à la caisse d'épargne, ça vous rapporte 5 francs, 5 euros au bout d'un an. 5 euros dans le meilleur des cas, pardon, plutôt 3 euros. Quoi. Parce que c'est 3%, je crois, etc. Quand vous retirez les frais, il n'y a pas grand-chose. Mais quand vous avez 1 million ou 2 millions et que vous les placez dans des trucs à 20%, ça rapporte déjà beaucoup plus. Pourquoi vous voulez que ces gens-là travaillent contre eux? Ils vivent tous dans des endroits bien précis. Est-ce que vous connaissez beaucoup d'élus, entre guillemets, dans nos gouvernements qui habitent en Seine-Saint-Denis? Moi, j'en connais pas des masses. Par contre, ils habitent du côté du Touquet, dans des superbes maisons, des choses comme ça. Et là, bizarrement, dans ces endroits-là, je sais pas pourquoi, il n'y a pas d'éoliennes, dis donc.
Alors, pour revenir à votre ouvrage, et notamment la question de l'inflation, les prix de l'alimentation ont augmenté de 24% en 2 ans, selon l'UFC Que Choisir, et le prix de l'essence s'est envolé de 30% en 3 ans.
Oui.
Alors, dans votre livre, vous écrivez, je cite, « La France va mieux, sauf pour les Français, pour eux, c'est de pire en pire. »
C'est vrai.
« Jusqu'où l'inflation va-t-elle monter, et les politiques ont-ils vraiment les moyens d'action pour lutter contre l'inflation ?»
Alors, s'ils veulent, ils peuvent. Il n'y a pas photo. Moi, j'ai été 25 ans de politique. Quand vous tapez sur la table, si vous voulez faire des choses, vous pouvez les faire. Réduire l'inflation, on peut le faire. Réduire l'inflation. Mais c'est pas ça qu'ils font. Parce que, encore une fois, ces gens-là ne peuvent pas se rendre compte. Quand t'es élu au niveau où ils sont élus, tu vas jamais faire tes courses. Jamais. T'as des frais de représentation. On te paye à bouffer le matin, le midi, le soir. Quand tu es au niveau où ils en sont, toi, tu mets jamais d'essence dans ta voiture. T'as un chauffeur, t'as une voiture et ton essence, tu la payes pas. Donc, ils peuvent pas se rendre compte de la réalité du mal des gens. En plus, il y a des gens autour d'eux qui leur disent que tout va bien. Alors, c'est vrai. Je le dis et je le redis. Partout où on affiche, la France va mieux. La preuve, on a encore les derniers chiffres. Il y a eu une augmentation de je ne sais pas combien de millionnaires en France. Et quand on dit millionnaire, ce n'est pas 1 million. Quand on dit que vous êtes millionnaire, c'est que vous avez 100 millions. Ah ouais, les gens croient que c'est juste 1 million. Mais 1 million, aujourd'hui, c'est pas la mort. Hein. Vous êtes le moindre cadre moyen qui a eu un héritage de son père, etc. Il a 1 million d'euros.
Non, patrimoine et tout.
Il y a une augmentation des millionnaires en France. Et quand vous êtes millionnaire en France, c'est-à-dire que vous avez plus de 100 millions.
Ils sont combien en France?
Ah mais je sais plus, mais il y en a eu 100 là qui sont augmentés en plus dans l'année 2023. D'ailleurs, n'oubliez pas que pendant la pandémie, le CAC 40 n'a jamais gagné autant d'argent. Aujourd'hui, les derniers chiffres des versements des dividendes aux gens du capital en France a explosé. La France va mieux, pour quelques-uns. Mais en attendant, il y a 1,1 km de queue à Montpellier devant les Restos du Cœur pour les étudiants. En ce moment, toutes les banques alimentaires sont en train d'exploser parce qu'ils ne savent pas comment ils pourront nourrir les gens qui crèvent de faim. Aujourd'hui en France, tu as des gens qui travaillent et qui dorment dans leur voiture parce qu'ils ne peuvent plus se payer un appartement. Aujourd'hui, quand vous gagnez 1 500, 2 000 euros par mois, que vous avez payé votre loyer, votre téléphone, votre internet, il vous reste 5 balles à la fin du mois. Et comment vous remplissez votre frigo? Et ces gens-là, ils ne le savent pas. Et quand les denrées augmentent, en fin de compte, c'est pas, même pas, parce qu'on le voit, c'est même pas les producteurs qui gagnent le plus. Regardez ce qui se passe avec les agriculteurs en ce moment qui sont en train de crever avec le lait et un tas de choses. C'est pas le consommateur, c'est les intermédiaires qui s'en foutent plein les fouilles. C'est les taxes qu'ils font, parce qu'on n'oublie pas que l'essence est hyper taxée. Qui empoche le pognon? C'est l'État. Parce que moi, à la limite, je vais vous dire, payer beaucoup d'impôts, ça me gêne pas. Si je pouvais payer beaucoup d'impôts, ça me gênerait pas. Ce que je veux, c'est que ça soit bien utilisé. Et non seulement on paye beaucoup d'impôts en France, mais en plus l'argent est mal utilisé. Parce que, regardons, l'hôpital, ça va? Non, on est en train de crever. L'école, ça va?
Je vais revenir à l'école.
L'école, ça va? Non, elle est en train de crever. La justice, ça va? Non, il n'y a plus de justice. Le code du travail est en train de casser. La sécurité sociale, nous avions la meilleure sécurité sociale du monde. La meilleure sécurité sociale du monde. Aujourd'hui, ils sont en train de tout détruire par libéralisme à outrance. Et qu'on soit bien clair, je ne suis pas anarchiste, je ne suis pas communiste. Je constate simplement qu'aujourd'hui, c'est vrai, la France va mieux. Et aujourd'hui, c'est vrai, les Français sont en train de crever de faim.
Pour revenir à la question, mais comment pourrait-il arrêter l'inflation? Notamment Bruno Le Maire, hein, qui a fait beaucoup d'annonces ces dernières années.
Il fait que de l'annonce, monsieur Bruno Le Maire. Il fait que de l'annonce. Il y a des choses vachement simples pour réduire l'inflation. Moi, je suis pas un super technicien de l'argent. Mais quand on veut, on peut. Quand on est politique, on a les règles. Réduire l'inflation, c'est déjà essayer de juguler un petit peu la déréglementation sur les produits. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, il y a des produits dont l'augmentation n'est pas justifiée, qui augmentent de façon exponentielle, en prenant le prétexte du Covid, de la guerre en Ukraine, etc. Et on l'a vu. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, on peut nous manipuler, entre guillemets, en nous faisant croire qu'il n'y a plus de moutarde, uniquement pour que les gens se précipitent pour acheter de la moutarde, et que par un effet de déclic, entraîne l'augmentation du prix de la moutarde. On laisse faire ce genre de choses. On laisse faire ce genre de choses. Et ça, c'est des médias, c'est des gouvernements qui laissent faire. Ils pourraient juguler, ils pourraient contrôler. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, on ne contrôle pas l'augmentation des prix des produits à la distribution et aux consommateurs? Comment ça se fait qu'aujourd'hui, qu'il y a des paquets de gâteaux, entre guillemets, et pas que des paquets de gâteaux, qu'on nous vend plus cher avec moins de produits à l'intérieur? On en a les preuves. Il n'y a aucun contrôle là-dessus. Par libéralisme, un commerçant, il a le droit de faire ce qu'il veut. Ben non. Non, parce qu'on n'a pas le droit de laisser crever de faim les gens. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, il y a de la surproduction dans certains secteurs, et moi je l'ai vécu, et qu'on jette cette surproduction plutôt que de la redistribuer à des plus pauvres. Alors on fait des pseudo-lois, où on n'a plus le droit de jeter tel truc et tel truc. Mais l'inflation, on peut tout à fait lutter contre eux. Il y a plein de pays qui ont réussi à lutter contre l'inflation, réellement. Mais c'est vrai, ça passe par des lois, ça passe par des contrôles sur les fabricants, ça passe par un tas de choses dont on ne veut pas les mettre en place. À la finale, c'est le pauvre consommateur qui, lui, peut rien faire, qui, le pauvre salarié, qui, lui, n'a personne derrière lui pour répercuter le prix qu'il est en train de payer, parce que c'est ça, c'est la répercussion. Hein. Le premier commence à monter de 2 centimes, comme le deuxième, on a monté de 2 centimes, lui, il augmente de 3, parce que chacun veut continuer à avoir sa marge. Et le dernier, le salarié, le consommateur, qui, lui, ne peut pas se retourner. C'est lui qui paye.
La guerre en Ukraine, justement, a été une opportunité pour les grandes enseignes de multiplier au moins par 2 leurs prix.
C'est ça, pas tourner en plein dedans, ouais.
Vous avez consacré plusieurs lignes à ces grandes enseignes et leurs pratiques déloyales, notamment le dimanche.
Ah, on parle de casino.
Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot?
On peut vous parler de casino. Casino, c'est un des exemples que j'ai pris dans mon dernier livre, qui est un truc de fou. C'est-à-dire que casino, vous aviez, par exemple, une barquette de n'importe quoi à 2,80€ le vendredi soir dans le magasin. Vous reveniez le samedi dans le même magasin pour acheter la même barquette, vous la retrouviez avec 26% d'augmentation. Il paraît que c'était légal. Alors, on peut se dire, c'est le samedi, c'est le dimanche, peut-être qu'on paye les employés plus... Non, non. Ils ne payaient pas les employés plus cher, ils n'avaient pas plus de charges. C'était uniquement des augmentations spéculatives. Mais le pire, c'est que sans le dire aux gens, là aussi, c'est pas normal. La transparence, c'est ce qui fait reculer les abus. Comment ça se fait qu'il n'y a pas d'affichage réel sur l'augmentation des prix? Ça serait tellement simple. Tellement simple. Au mois de janvier, ça vaut 1,50 €. Au mois de février, ça vaut 2,80 €. Parce que les gens n'ont plus de mémoire. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, je vais vous dire une bêtise, mais je suis fou, les produits les moins chers sont toujours à ras du sol dans les supermarchés. Quand on vous prend une, alors vous me direz, c'est la faute du consommateur, il a qu'à être regardé. Il n'a pas le temps de le faire. Aujourd'hui, par exemple, on a constaté qu'il y avait des produits en promotion, quand vous les achetiez par pack de 3, par exemple, qui étaient plus chers que quand vous les achetez un par un. Et on vous fait croire que c'est une bonne affaire. Il n'y a aucun contrôle sur ce genre de choses. Ça, c'est le genre de truc complètement anormal. Alors vous me direz, souvent, on nous rétorque, mais c'est au consommateur de regarder. C'est au consommateur. Mais le consommateur, il n'a pas le temps aujourd'hui. Le consommateur, il a un quart d'heure pour faire ses courses, il va dans le magasin, et puis il prend, et il paye. Donc on devrait mettre des contrôles avant ce genre de choses. Mais on le fait pas, parce que nous sommes dans un monde où il faut le faire le plus d'argent possible en moins de temps possible. Un monde de profit. Donc c'est pas fait pour le partage. c'est pas fait.
Après, il y a des gens qui conservent les tickets au cours de l'année pour se rendre compte de l'évolution des prix.
Il y en a, mais combien? Il faut, et c'est chronophage de faire ça. Et là, en plus, m'en voulez pas, mais je l'ai aussi mis dans mon bouquin. Les tickets, ça disparaît, hein. Donc, les tickets, ça va pas durer longtemps, parce qu'ils se sont rendus compte aussi que c'est vrai que c'était un moyen de vérification, les tickets. Et que je l'ai mis dans mon bouquin, il y a 20%, 15% des produits qui sont différents entre le prix affiché et ce que vous payez en caisse. Il y a des enseignes, je veux pas les citer, parce que sinon ils vont me faire des procès, mais il y a des enseignes qui sont spécialisées dans le fait que ce qui vous affiche dans le rayon et ce que vous payez en, à la caisse, il y a 15% de différence. Et bien entendu, pas en moins. En plus,
ce dont on parlait avec Casino, c'est interdit aujourd'hui par la loi.
Alors, ils ont changé la loi et Casino s'est excusé. Mais la loi, c'est légal. Je sais plus comment ça s'appelle. Ça s'appelle, j'ai plus le nom en tête, j'ai mis dans le bouquin. Mais c'est légal. Ils ont le droit de faire ça. Ils ont droit. Alors, ils le font pas. Ils le font plus. Pourquoi? Parce que ça s'est su. Parce qu'il y a des gens qui ont fait une campagne médiatique que j'ai repris dans mes livres, qui a été repris quelque part, et que par rapport à leur image, ça la fout mal. C'est pour ça que je dis, plus on est transparent, moins ils peuvent abuser. Si on n'avait pas porté le paix, Casino continuerait à afficher des prix 26% plus chers entre le samedi et le dimanche que ce qu'il avait affiché le vendredi.
D'ailleurs, Casino qui contrôle Monoprix et Franprix.
Oui, oui, oui. D'ailleurs, ils sont en train de se casser la gueule.
Pour revenir à notre sujet, donc, on constate une dégradation de l'éducation en France.
Vous constatez, vous?
Le métier d'enseignant n'attire plus, les conditions de travail et de salaire ne sont pas bonnes. On en arrive même à recruter des professeurs avec la note de 3 sur 10
ouais.
au concours des académies de Créteil et de Versailles.
Ouais,
je vous cite dans le livre. L'effondrement de l'école publique est-il orchestré par la Macronie?
Alors, c'est pas orchestré par la Macronie, c'est orchestré par un libéralisme à outrance. Encore une fois, Macron n'est que la marionnette de ce qu'il estime être bon pour le peuple. C'est-à-dire que chacun fait ce qu'il veut, où il veut, comme il veut, et il se débrouille comme il peut. C'est aussi la base du libéralisme. Si je peux t'écraser, je t'écrase. Les règles concurrentielles, on les abolit. Chacun vend ce qu'il veut. Et malheureusement, ils sont en train de le mettre en place. Et comme il n'y a pas l'information, les gens ne s'en rendent pas compte. Et l'éducation nationale, l'abêtissement des individus fait partie d'un système où après, ça sera plus facile de les diriger. Quand t'as pas eu accès, entre guillemets, à l'éducation et à la réflexion, quand ton langage diminue, le nombre de mots que tu peux utiliser, parce que moins tu vas à l'école, moins tu as de mots, etc. Plus c'est facile de te manipuler, plus quelques personnes qui, eux, ont eu accès au savoir, qui, eux, ont eu accès à l'éducation, qui, eux, connaissent les rouages, puisqu'ils ont l'intelligence instructive, peuvent te diriger après. Et aujourd'hui, faire une école d'abrutis, mais c'est un bonheur pour tous les gens qui veulent nous diriger. Parce qu'il va y avoir quoi derrière? Et d'ailleurs, Macron l'a mis en place à Marseille, hein, avec le choix de faire des écoles. Il y a 51 écoles maternelles ou je sais plus quoi, où ils peuvent choisir leurs professeurs, donner les cours qu'ils veulent, etc. Va te donner des écoles de merde et des écoles intéressantes. Mais ne pourront aller dans les écoles intéressantes que ceux qui seront sélectionnés, entre guillemets, ou qui auront de l'argent.
Là, on parle des écoles publiques.
Ouais. Mmh. Oui, mais je parle pas d'écoles privées. Justement, je parle d'écoles publiques. On est en train de détruire au profit des écoles privées, comme les hôpitaux. Mais pourquoi? Parce qu'il faut pas que les gens, les hôpitaux se jouent, il faut pas que les gens soient trop intelligents, parce que quand tu commences à être trop intelligent, tu te laisses plus manipuler n'importe comment. Hein. Donc aujourd'hui, mais c'est pas seulement de Macron, c'est déjà d'avant. Hein. Il faut faire une école publique qui soit officiellement bien, mais pas trop, qui donne pas trop accès. D'ailleurs, la preuve, hein. je veux rien dire, mais combien d'ouvriers à l'Assemblée nationale aujourd'hui?
Il y a quand même la femme de ménage.
Combien de, oui, je parle dedans, comme dirigeant. Combien de fils de pauvres dans les grandes écoles? Ben, je peux te dire, c'est peanut, ça. Que tu prennes HEC, que tu prennes l'ENA, que tu prennes les grandes écoles d'ingénieurs. Non. T'as pas de fils de cadre C. T'as très peu de fils de cadre A ou B. T'as surtout des cadres A, des cadres supérieurs. Mais c'est pas fait pour les populations. Or, la masse de la population, c'est pas des cadres. La masse de la population, c'est entre guillemets, c'est des catégories C. Mais il faut pas que ces gens-là soient trop intelligents. Il faut que ces gens-là continuent à regarder Hanouna. Parce que Hanouna, aujourd'hui, c'est la référence politique qu'on essaye de nous imposer. Et ça, c'est vachement pratique pour après faire ce que tu veux avec les gens. Et c'est pour ça qu'ils sont en train de casser les syndicats. C'est pour ça qu'ils sont en train de casser le code du travail. Et le pire dans cette, dans ce que je suis en train de te dire, c'est ce que j'explique dans le livre. C'est qu'une fois qu'ils ont cassé le code du travail, une fois qu'ils ont cassé la sécurité sociale, une fois qu'ils ont cassé tous les services publics dont on pourrait avoir besoin, y compris l'école, la plupart, une fois qu'ils ont cassé la retraite, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est aussi un truc de fou. La plupart des gens ne vont même plus avoir envie de se battre. La seule chose que vont avoir les gens, c'est soit d'être servile et de rentrer dans le système, surtout de se faire petit pour avoir quelques miettes, ou de se battre pour sa gueule, sa famille, ses enfants, un petit peu ses cousins, et puis les autres, démerdez-vous. Parce que c'est ça la société qu'ils sont en train de nous proposer. Ils sont en train de nous proposer une société qui sera basée sur le profit et non sur le partage. Moi, je suis pas pour cette société. Société libéraliste, entre guillemets, comme à l'américaine, où c'est ton patron, parce qu'ils y aiment, écoutez bien, parce qu'ils sont en train de nous le préparer. Où c'est le patron qui va te prendre ton assurance maladie. Donc, seulement quand tu travailles. Comme ça se fait.
D'ailleurs, aux États-Unis, l'espérance de vie est en train de diminuer.
Mais oui, comme en France.
C'est pas un très très bon modèle.
En France aussi, mais c'est pas un bon modèle, l'Amérique. C'est une apparence de bon modèle. Mais c'est une apparence de bon modèle pour quelques-uns. Comme ils sont en train de le faire en France. Alors c'est vrai que l'Amérique, nirvana. L'Amérique, c'est des endroits où il y a des ghettos, où les gens voient des médecins une fois tous les deux ans, où de temps en temps, pour avoir un dentiste, il y a une grande tante qui vient, où il y a 15 dentistes en apprentissage qui viennent, des gens qui font la queue pendant 3 heures parce qu'ils n'ont pas les moyens pour se faire soigner une dent. En Amérique, quand tu as la moindre maladie grave, si pendant 40 ans, tu as économisé pour payer ta maison, tu es obligé de vendre ta maison pour pouvoir soigner ton cancer. Et c'est ce qui se passe, et tu n'as plus rien. Aujourd'hui, en Amérique, quand tu vas voir un médecin, la première chose qu'on te demande, c'est pas « qu'est-ce que tu as comme maladie ?» C'est « quelle carte de crédit tu as ?» Et une fois que tu as monté ta carte de crédit, on commence à te dire bah, « de quoi vous êtes malade ?» Et si ta carte de crédit n'est pas approvisionnée, eh ben, on ne te soigne pas en Amérique. En France, on peut encore ça. Et ça arrange pas certains praticiens. Ça arrange pas certaines pharmacies. Ça arrange pas certains grands pontes de la médecine. C'est mieux de monter des cliniques privées où quelque part tu vas. Parce que aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer. Quand tu veux aller à l'hôpital avec tes gosses, un gosse malade, t'attends 8 heures, 10 heures, 15 heures au service des urgences qui sont complètement saturés et en plus où il faut que tu payes 20 balles si jamais ils déclarent que c'est 20 balles, c'est le truc qu'ils ont trouvé pour que tu n'ailles pas aux urgences. Qu'est-ce que font la plupart des gens qui ont un petit peu de moyens encore? Eh ben ils emmènent leur gosse dans la clinique d'à côté. Hein. C'est beaucoup plus cher.
Philippe Pascoe, la Fondation L'Abbé Pierre estime que le nombre de SDF dormant dans le froid actuellement est de 330 000 personnes.
C'est qu'une estimation, parce qu'il y en a beaucoup
estimation.
Plus.
Estimation. Chiffre qui a doublé en 10 ans. Donc sous Macron.
Alors que je m'excuse, hein, je t'interromps. Alors que j'ai entendu un type il y a pas longtemps qui a fait des super photos dans une nuit à genoux dans la rue avec la mine compatissante auprès d'une tente où il y avait un SDF en déclarant dans tous les journaux, je ne veux plus qu'un seul sans-abri dorme dans la rue l'année prochaine. Ça remonte déjà 3 ou 4 ans et il y en a de plus en plus quoi.
Moins 4, moins 10 la nuit, on imagine ouais. Que les conditions...
Mais il y a de plus en plus de gens. Je crois que c'est l'année dernière, on a recensé quelques 600 SDF anonymes morts dans la rue. Morts dans la rue. Et c'est même pire, parce que c'est un dossier que je suis un petit peu, c'est qu'aujourd'hui, et ça me rend fou de rage, pour n'importe quel peccadille, aujourd'hui que tu fais, hein, je dis une grosse bêtise, hein, y a des flics qui vont me reprendre, mais je vole 3 paquets de cacahuètes dans un supermarché, je suis récidiviste, on me prend mon ADN, qu'on met dans le fichier national. Est-ce que je suis clair par rapport à ce que je suis en train de dire? D'accord? Par contre, les SDF qui meurent dans la rue, qu'on enterre dans des fosses communes, eh ben eux, on n'arrive pas à prendre leur ADN. Donc si c'est des gens qui ont une histoire, des gens qui en sont partis de chez eux, des enfants qui les cherchent, on ne sait pas. Des gens qui sont arrivés en France et qui meurent en France, que leur famille va les chercher, eh ben on peut même plus savoir qui sont ces gens-là, parce que l'anonymat qu'ils avaient dans la rue, ils la conservent dans la mort. Et eux, on prend pas leur ADN. Je trouve ça inadmissible. C'est un petit point de détail, hein. par rapport à la façon dont on traite les gens en France. Une pécadille en France, on prend ton ADN. Un SDF dans la rue, on ne prend pas son ADN.
Pour revenir à la santé dont on parlait tout à l'heure, par ailleurs, 80 000 lits d'hôpitaux ont été fermés en 20 ans.
Ouais.
Avec des urgences surchargées, comme vous le disiez, et un système de santé à l'agonie. À ce rythme-là, le système français pourra-t-il survivre de son
temps ? Non ! Mais c'est pas ce qu'ils veulent. C'est parce qu'il y a une grande déclaration, je crois que c'est encore hier soir, d'un type qui s'appelle Mac. Oh putain, il arrête pas de passer à la télé en ce moment, il m'énerve ce mec. Macron, je cherchais son nom.
Emmanuel.
Ouais, Manu. Emmanuel. Qui a déclaré hier soir à la télé qu'il allait régulariser les médecins urgentistes étrangers. Et ils ont enfin dit le vrai chiffre. Aujourd'hui, on est tellement mal dans les médecins urgentistes que 25% des médecins urgentistes sont étrangers. Et je l'ai vécu, moi aussi. C'est-à-dire qu'une fois, j'étais aux urgences, que j'avais mal au dos, j'arrivais à un âge où, tu vois, le médecin urgentiste me vient me voir, et il y avait un traducteur, je te jure que c'est vrai, pour me demander ce que j'avais.
Et si jamais, c'était où en France
ça? C'était à l'hôpital d'Evry. Ouais, donc c'est vraiment en France. Oui, c'est dans l'hôpital de Corbeil, parce que maintenant les urgences sont passées à Corbeil. Et donc il y avait un traducteur pour traduire aux médecins étrangers, me demander où moi j'avais mal. Si ça, c'est pas une médecine qui commence à aller très mal, je veux qu'on m'explique. Et il a reconnu qu'il y avait 25% des médecins urgentistes qui étaient étrangers aujourd'hui en urgence. Mais je comprends, depuis qu'ils ont supprimé le numerus clausus, et que de toute manière, bosser dans le privé pour un médecin, c'est plus intéressant que bosser dans le public. Ça ne peut que continuer à se dégrader, parce que c'est comme les enseignants. On te dit, il y a le métier dans... Mais aujourd'hui, aller se faire casser la gueule dans un lycée ou dans un collège... pour gagner 1500 euros, ça va, ben pourquoi tu veux que les gens y aillent? Il n'y a aucune reconnaissance des métiers. Aujourd'hui, un médecin urgentiste, il n'est pas reconnu. Aujourd'hui, une infirmière, on la prend pour n'importe quoi. Ils viennent de faire pire, parce qu'ils viennent d'autoriser les pharmaciens. Et les seuls trucs qu'ils trouvent pour juguler le manque, ils viennent d'autoriser les pharmaciens à faire des vaccins. Ils viennent d'autoriser les infirmières libérales à faire des actes. Mais c'est pas pour ça qu'ils sont plus payés. Je crois que par acte, une piqûre, une infirmière, elle est payée 3,40 € ou une connerie comme ça, je dis peut-être une bêtise, mais c'est peanuts. Donc tant qu'on valorisera pas ces gens-là dans le métier et dans le salaire, ça continuera à dire, et ça ils le font pas, donc l'explication elle est bien simple: pourquoi je vais me faire braire à devenir médecin urgentiste avec des horaires pas possibles pour gagner peanuts? Je crois qu'un médecin urgentiste il tourne autour de 4 000 € à l'hôpital, une connerie comme ça. Les mecs, ils ont fait 10 ans d'études, ils n'ont pas envie de se faire chier. C'est pour ça que les étrangers ont pris des postes. Parce que
justement, et puis les cerveaux de certains pays en voie de développement.
Mais c'est un bonheur. Mais c'est un bonheur.
C'est ça l'avenir en France.
Ah bah, ça peut être un des avenirs, parce qu'il l'a bien dit. Hein. Il a bien dit qu'ils allaient régulariser certains secteurs et pas d'autres. Là, encore une fois, c'est de l'exploitation, parce qu'en plus, il faut savoir, par exemple, que les médecins urgentistes étrangers étaient moins bien payés que les urgentistes français. La dérégulation, elle est là, et c'est sûr que ça peut pas s'améliorer. Et le seul truc qu'ils ont trouvé pour désengorger les urgences, parce que ça aussi, c'est un truc vachement facile. On nous dit, mais les gens vont aux urgences pour n'importe quoi. Ben ouais, moi j'ai eu 6 enfants. Et bizarrement, les enfants, c'est le dimanche soir qu'ils chopent 42 fièvres. Ou quand t'appelles ton médecin, t'as pas de rendez-vous avant 4 semaines. T'as ton gosse qui a 42 fièvres, tu sais pas ce qu'il a, qu'il étouffe, il est tout rouge, et tu téléphones au médecin et t'as pas de rendez-vous, Doctolib, avant 4 semaines, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu vas aux urgences. Parce qu'ils ont pas le choix. Mais le fait d'avoir mis les urgences à 20 €, c'est encore un faux problème. Alors, ok, on va réduire un petit peu les gens qui vont aux urgences pour n'importe quoi. Mais celui qui a pas de pognon, qui a même pas 20 € pour finir le mois, et qui a une phlébite, ou qui a une maladie contagieuse, ou qui a un sporasiste développant, etc. Eh ben, il va pas y aller aux urgences, ce type-là. Parce qu'il a pas les 20 €. Sauf que sa maladie, elle va continuer à augmenter. Sauf que 1 mois après, 2 mois après, ce mec-là, la phlébite qu'il avait au pied va s'être transformée en gangrène, je dis n'importe quoi. Et là, ça va encore coûter encore plus cher à la sécurité sociale. Mais ça, ils s'en foutent. Parce que, officiellement, ils auront désengorgé les urgences. Alors que le vrai problème, c'était embaucher des infirmières. Comment ça se fait que, par exemple, toutes les infirmières qui ont été mises à la porte pendant le Covid, tu te rends compte? Qui ont été mises à la porte sans salaire, sans rien, alors que c'est complètement illégal, alors qu'on n'en avait déjà pas assez. Alors qu'on en avait déjà passé, et je rentre pas dans le débat de anti-vax, pro-vax, je rentre pas en train de... Je constate simplement que sous un prétexte, entre guillemets, médical, on a mis à la porte des gens sans salaire, sans rien, alors que c'était complètement illégal. Illégal. Ils ont repris ces femmes-là? Il y en a plein qui sont encore Bangladesh. Hein. Moi, je vais te donner un exemple bien précis par rapport à ça, où ils ont abusé de façon illégale. J'habite en Bourgogne de temps en temps, et j'ai une copine qui est dentiste à Auxerre. Elle a refusé de se faire vacciner. C'est son droit. Elle a reçu une lettre de l'ordre des dentistes de Lyon, lui interdisant d'exercer dans son cabinet puisqu'elle ne faisait, elle n'était pas vaccinée. Ce qui déjà est illégal. La nénette était une nana quand même, voilà, qui tenait compte de ses clients. Elle a elle-même embauché un dentiste vacciné pour exercer dans son cabinet pour que ses clients aient un dentiste. Tu me suis? Eh ben, elle a quand même reçu une lettre de l'ordre des dentistes de Lyon interdisant à un médecin vacciné de travailler dans un local appartenant à un dentiste non vacciné. Je sais pas si tu te rends compte de ce que ça veut dire. J'ai l'impression de me revenir là. Quand j'écoute ça, quand je me remémore, ça, tout ce que je te dis est factuel, hein. Elle a porté plainte, c'est la vraie galère pour cette dentiste-là. J'ai l'impression d'arriver à des époques sombres dans les alentours de 39-40.
J'allais vous demander, est-ce qu'on a cité votre mot fétiche?
Lequel?
Démocrature.
Ah ben oui, j'ai l'impression qu'on arrive vraiment dans une société qui n'est plus une démocratie, qui n'est pas encore une dictature, qui est un entre les deux, ce qu'on pourrait appeler une démocrature. Et le fait qu'on interdise à un dentiste vacciné de travailler dans un endroit où il y avait un dentiste non vacciné, moi, ça me rend dingue. Ça me rappelle une période, je disais, un peu sombre, où tu n'avais pas le droit d'aller dans un café ou de faire travailler quelqu'un qui avait une petite étoile jaune sur le corps. Je pèse mes mots. Hein. Ça me rappelle ça.
Philippe, nous sommes dans l'année des Jeux Olympiques de Paris.
Oui, c'est une vraie dope. Ça. Donc, si tu me branches là-dessus, t'es mal. Hein.
Dans le cadre sécuritaire, l'utilisation des caméras à reconnaissance faciale a été annoncée.
Ouais.
Quels sont les risques, selon vous, que comporte ce type?
Ah, mais non, mais attends, c'est une arnaque de plus gouvernementale pour mieux nous contrôler. C'est-à-dire que, ils ont sorti une loi en disant, on met les caméras à reconnaissance faciale uniquement pour les Jeux Olympiques. Bon, pour des histoires de sécurité, de terrorisme, tu vois, je suis très large. Je me dis, bon, dans l'enceinte des Jeux, pourquoi pas? Tout de suite derrière, il faut une autre loi en disant maintenant après les Jeux Olympiques on va l'étendre à toute la France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va arriver à un système de crédit social comme aux États-Unis, ce qui existe déjà en France. Hein, les gens se rendent pas compte. Hein.
Ça a été annoncé où?
C'est un texte de loi qui est paru. Comme quoi ils allaient étendre les caméras à reconnaissance faciale après les Jeux Olympiques.
Actuellement, c'est que
Que certaines villes. Il y a Nice, il y en a qui passent par-dessus la loi. Il y a une petite ville en Bourgogne. Qui s'appelle Briennon sur Lyon, je sais pas quoi, Briennon, etc., qui a déjà installé des caméras à reconnaissance faciale. Petite ville de 2000 habitants, Briennon, c'est ça, dans Lyon. Mais bon, les mecs vont l'étendre de façon légale, mais les gens se rendent pas compte de ce que ça veut dire. On te dit c'est pour la sécurité. Non? Non, je vais te donner un autre exemple par rapport à ça, où les gens devraient se méfier. Et ce que je dis encore une fois est factuel. On nous a installé des caméras de surveillance. Maintenant, toutes les villes ont leurs propres caméras de surveillance. Même moi, ma petite ville où j'habite à Guerchy, ils ont installé dans la grande rue 5 caméras, alors qu'il y a 600 habitants. Hein. 5 caméras vidéo pour surveiller les gens dans la grande rue et tout. Hein. J'ai un rapport de la gendarmerie, je l'ai mis dans le pouvoir du pire, qui stipule que 80%, et c'est pas moi qui dis, hein, gendarmerie nationale, qui stipule que 80% des caméras de surveillance ne servent pas à garantir les personnes et les biens, parce que c'est pour ça qu'on les installe, c'est pour garantir les personnes et les biens, mais à récupérer des amendes. C'est un bonheur. Et ils ont même été plus loin, parce que les caméras de vidéosurveillance, avant, quand tu surveillais les voitures, il fallait qu'une pervenche vienne pour mettre la contredanse sur ton pare-brise. Non, c'était trop compliqué pour eux, pour récupérer du pognon. Et Monsieur Valls, salut Manu, je te salue au passage, je t'appelle Dark Vador maintenant, quand il était premier, ça a pondu une loi qui dit que maintenant, on peut mettre les amendes directement à partir de la caméra vidéo. Mais c'est pire, parce que maintenant, il y a des endroits, et ça commence, où tu reçois directement l'amende chez toi, et bientôt, et ça arrive dans certains endroits, elle sera directement prise sur ton compte en banque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, enfin demain, tu vas avoir 135 balles sur ton compte en banque qui part, tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment, et ben ça sera une amende pour ta voiture. On y arrive.
Pour venir à la reconnaissance faciale, quels sont les risques
justement? Ben, les risques, c'est qu'on puisse plus circuler de façon libre. Le risque, c'est que si tu veux aller dans un endroit à un autre sans forcément être reconnu, sans savoir que tu y vas, et ben selon qui sera derrière la caméra, on saura où tu vas. Le risque, c'est que de soi-disant de passer des terrorismes aux opposants. Le risque, c'est de surveiller des journalistes qui font des enquêtes d'investigation, qui ont pas forcément le vice de savoir que, par exemple, quand tu vois, et moi, je suis bien placé pour le savoir, quand un informateur me donne un renseignement sur mes bouquins contre la corruption, j'ai pas envie que l'ensemble des flics savent que cet informateur me donne des informations. Et ben, la reconnaissance faciale, ça va permettre de reconnaître ces personnes-là s'ils me surveillent, moi. Et comme, en plus, ils peuvent stocker maintenant avec le numérique, etc., etc., ils auront même plus besoin d'être devant la caméra. Il suffirait qu'ils aient enregistré, etc., pour pouvoir me suivre quand ils veulent. C'est-à-dire que le soir à minuit, si un type de la DGSI ou de la DGSE, etc., ou payé par le gouvernement, ou une officine privée payée par je sais pas qui veut savoir ce que j'ai fait, eh ben il suffira qu'ils consultent des caméras et par reconnaissance faciale, ils sauront exactement où j'ai été. Mais ils peuvent déjà le faire avec le téléphone. Ils peuvent déjà le faire, ils commencent déjà à le faire. Il y a une loi, je vous dis, qui vient de passer, qui dit que, par exemple, les tickets de métro papier, maintenant, c'est sur ta carte... sur ta carte Navigo, que tu peux acheter 84 euros, ou sur ton téléphone et smartphone. Mais ça veut dire quoi, ça? Les gens se rendent pas... Ah, mais parce que t'es un vieux dinosaure, toi. Hein, tu te rends pas compte, le progrès, etc. Ouais, ouais. Sauf qu'avant, quand je prenais un ticket de métro, je pouvais aller à la République et sortir un machin, personne ne le savait. C'est moi qui décidais. Si je passe par ma carte smartphone, etc., on sait quand je suis entré au métro, où je suis sorti, quand je suis rentré, etc. Donc c'est vachement facile de me suivre quand tu es derrière l'informatique pour récupérer ce genre d'informations. Et qu'on ne me dise pas qu'ils ne le font pas. Hein. J'y crois pas une seule seconde.
Ce que vous disiez tout à l'heure, que ça va être donc appliqué dans toutes les grandes villes de France après les Jeux Olympiques, ouais, et même dans d'autres petites villes.
Ah oui, oui, la reconnaissance faciale va être entendue de toute la France.
D'accord. Et ça a été appliqué dans quel pays?
Ah bah, il y a plein de pays. Il y a la Chine, c'est un des premiers pays où il y a le plus de caméras, mais il y a plein d'endroits où ils commencent à mettre. Tous les pays, entre guillemets, qui veulent contrôler totalement leur population. Qui veulent contrôler totalement leur population. Parce qu'en plus, derrière, si je vais jusqu'au bout de la logique, pourquoi pas? Mais il n'y a aucun contrôle derrière ces caméras. Et le fond du problème, il est là. Par exemple, on te dit, mais vous inquiétez pas, monsieur. Trois jours après, ce qu'il y a dans les caméras, c'est détruit. Imaginez, et ça peut arriver, un type qui est au gouvernement, qui est très jaloux. Mais les caméras, reconnaissance, machin, mais c'est un bonheur pour surveiller sa femme. C'est un bonheur. Et ça, ils sont en train de le lancer. Et rappelez-vous ce qui se passe en Chine, parce qu'on dit toujours, ça n'arrivera jamais chez nous. Ouais. Ça arrivera jamais chez nous. Pensez à un pays comme la France, on peut pas faire ça. Ben ouais, ils ont tous déclaré même qu'ils toucheraient jamais à la retraite. Hein. Ils arrêtent pas de nous mentir. Donc là, pourquoi ils nous mentiraient pas? Qu'est-ce qui me prouve
que comme c'est de toute façon, ils l'ont annoncé. Donc,
pardon?
Ça va être mis en place.
Mais oui, ça va être mis en place. Mais toujours avec des bonnes intentions, parce qu'aujourd'hui, ils sont dans le new langage. Hein. On est vraiment dans l'orwellien, où ils te déclarent des choses et ils font le contraire tout de suite derrière. Donc aujourd'hui, le mensonge est devenu la règle.
On n'informe pas les gens sur les risques.
Mais non.
Dans les grands médias.
Mais pourquoi tu veux les informer? Puis les gens veulent pas être informés en plus, parce qu'ils vont pas chercher l'information non plus. Ils se rendent pas compte. Je vais te donner un autre exemple. Je l'ai mis aussi dans le pouvoir du pire sur les parcs-maîtres qui sont en train de supprimer dans tout Paris, par exemple. Ils suppriment tous les parcs-maîtres dans Paris aujourd'hui. Pour trouver un parcs-maître pour mettre des pièces, faut que tu fasses 500 mètres voire un kilomètre. Quand tu reviens, t'as la trouille qu'on t'ait déjà foutu une amende, parce que maintenant c'est des boîtes privées en plus qui passent en bagnole et qui te cartonnent tout de suite. Et ils te disent, mais surtout prenez, si vous voulez que ça soit plus pratique, mieux, prenez votre parcmètre sur votre smartphone. Il y a des grands trucs, c'est vachement plus pratique, vous emmerderez. Mais les gens ne se rendent pas compte comment ils se font niquer la tête avec ça. Parce qu'avant, quand tu avais le parcmètre, et je vais uniquement être pragmatique, premier truc, c'est que quand tu avais le parcmètre avant, déjà, ça prenait 5 minutes pour aller mettre ton ticket, tu revenais, tu mettais dans la voiture, tu avais déjà gagné 5 minutes, tu me suis? avec le smartphone où tu mets ta plaque d'immatriculation, tu pouvais en plus, je rappelle avant, parce que c'est un truc important que les gens ne savent pas, donc moi j'avais mis 1h30 sur mon parcmètre, je m'en allais, il y avait une autre voiture qui arrivait, par sympathie, je pouvais donner mon ticket au mec, dire regardez, il me traite 30 minutes. Enfin, tu peux plus maintenant, parce qu'ils ont trouvé la combine, que c'était une combine où ils perdaient un peu d'argent, donc maintenant tu es obligé de taper ta plaque d'immatriculation. Donc déjà là, t'es niqué. Mais si tu mets le truc sur smartphone, comme ils sont en train de tous te le dire, de faire, quand tu descends de la voiture, tu tapes sur ton smartphone, ça y est, tu commences à payer. Tu vas dans un café boire un coup quand tu es garé. Avant, ben ce putain, ça fait 5 minutes que mon parcmètre est plus bon, faut que j'y retourne pour remettre des pièces. T'avais un battement où quelque part tu pouvais gagner encore 5-10 minutes pour remettre des pièces, etc. Dans le cadre d'un motus vivendi agréable entre les deux. Avec le smartphone, non. Parce que quand t'es au café, il sonne ton smartphone pour que tu remettes des pièces. Et comme t'as plus besoin de te déplacer, c'est du restaurant que tu remets des pièces. Donc tu payes à la minute près. Donc tu payes en plus. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, encore une fois, avec l'informatique, ils s'avoutaient. Ils ont ta plaque, ils ont l'endroit où tu t'es garé, ils ont l'heure à laquelle tu t'es garé, ils ont tout. Elle est où la liberté des gens, hein? Mais tu me diras, ne vous inquiétez pas, hein, tout ça c'est sécurisé. C'est comme ils sont en train de nous supprimer l'argent liquide. Les gens ne se rendent pas compte. Là aussi, je passe pour un vieux dinosaure. Mais vous ne vous rendez pas compte que quand l'argent va être liquide va être supprimé, mais vous êtes morts, les gens. Vous êtes morts. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où l'argent va être démonétisé, qu'elle va être sur ton smartphone, et ça va être pire, je peux encore aller plus loin. La petite grand-mère, parce que tout le monde me dit, attends, faut que je reprenne depuis le début. Je suis un vieux dinosaure parce que la petite vieille, elle ne sera plus volée son argent liquide. Quand ton mari qui rendait sa monnaie, qui se gourait à chaque fois qu'il rendait la monnaie, ben, il pourra plus, là, c'est sa carte. Hein. Tu vois, si ta maison brûle, te fais pas de soucis. Ton argent disparaît pas puisque c'est sur ta carte. Sauf que les gens ne se rendent pas compte que quand il n'y aura plus d'argent liquide, quand tu vas vouloir filer 20 euros à ta petite fille en douce, surtout, tu le dis pas à ta grand-mère, je te donne, tu pourras plus. C'est sur ta carte. Quand tu vas aller en brocante pour t'acheter un petit truc, pour vendre un petit truc, etc., etc., puis te faire un peu de black pour aider ta famille, ben, tu pourras plus. C'est sur ta carte. Quand tu vas voir aller bosser chez ton pote pour l'aider à faire un mur, peindre son plafond, parce qu'il te payera au black, parce que tu as besoin d'un peu d'argent pour nourrir ta famille. Tu pourras plus, puisque c'est sur ta carte.
Sous couvert de pseudo-sécurité, on brime les libertés.
Et c'est pire que ça. Parce qu'il y a une loi qui a essayé de passer, monsieur Darmanin, là, où il voulait conjuguer la carte vitale avec la carte d'identité. Je sais pas si tu as suivi ça. Elle n'est pas encore passée, mais il va la repasser. Donc ta carte vitale et ta carte d'identité seront conjuguées sur la même carte. Ouais, les gens ne sont pas au courant forcément. Il y en a tellement qu'on ne suit plus l'information. Et ben là, il est en train de le faire. Mais les gens ne se rendent pas compte de ça. Alors, vieux dinosaure, hein, 70 ans, c'est normal. Je lutte contre le progrès. Plusieurs cartes, c'est chiant. Tu comprends rien au monde moderne. Ouais, ouais, c'est vrai. Alors, il va y avoir la carte d'identité et la carte vitale sur la même carte. On est d'accord? C'est un texte de loi qu'ils ont déposé. Hein. Et ils vont le faire. Quand tu vas aller chercher du boulot et que tu vas montrer ta carte d'identité, parce que c'est normal, on va savoir qui t'es, que t'es en entretien, etc., etc. Et qu'il y aura ta carte vitale dessus. T'inquiète pas, hein, on te dira que c'est sûr. Le patron qui est un peu futé, qui dépose du matériel qu'il faut informatique, quand il va voir que tu as fait 3 tests de grossesse le mois dernier sur ta carte vitale. Ah, excusez-moi, madame. Il n'y a pas de travail pour vous. Quand il va voir que tu es diabétique de type 2, que tu arrêtes pas de prendre des médicaments, etc., etc., et qu'il le verra sur ta carte vitale. Ah, excusez-moi, monsieur. On peut pas vous embaucher. Hein. Officiellement, ils sauront rien. Et qu'on me dise pas qu'ils pourront pas le faire parce que je sais qu'ils le feront. Parce que je lis l'informatique. Tu peux craquer ce que tu veux quand tu connais les bons codes, quand tu as le bon hacker. Mais ils vont faire pire que ça, bientôt. Parce qu'ils vont aussi mettre ton compte en banque. sur la même carte que ta carte d'identité et que ta carte vitale et que ta carte de crédit, etc., etc. Et ça arrive. Et encore une fois, les gens te diront, mais c'est mieux, c'est moderne, il faut vivre avec son temps. Mais les gens se rendent pas compte parce qu'ils n'ont pas de mémoire et ils pensent tous que ça peut pas arriver chez nous, ce genre de truc. Mais rappelez-vous certains films en Amérique où, moi, ça m'est toujours marqué quand j'étais jeune. Le mec, il arrive dans une boutique, il achète 3 chewing-gums et il veut payer avec sa carte. Donc, il donne sa carte à la dame. La carte, elle passe pas. On la refuse. Il y a plein de films hein, comme ça, regardez bien. Il donne une deuxième carte, parce que là-bas, ils ont encore 3 cartes. La carte est aussi refusée. Qu'est-ce que fait la commerçante? La commerçante, elle prend un ciseau. Elle prend les 2 cartes du mec et elle coupe les cartes en 2. Pour pas que le mec puisse à nouveau s'en servir. Regardez, il y a ça dans plein de films. Le mec qui sort du magasin, il a plus de vie. Parce que toute sa vie, c'était sur les cartes. Et bien, le jour où ils vont conjuguer toutes les cartes, comme ils sont en train de nous préparer en France, les gens ne se rendent pas compte, et vous verrez que ce que je vous dis est précurseur. Le type qui ne marchera pas droit, il suffira qu'il y ait quelqu'un en haut derrière un écran, qui prenne son doigt, qui appuie sur un bouton, et t'as plus de carte. Et comme sur la carte que t'as, il y aura toute ta vie, ton compte en banque, ta carte d'identité, ta carte vitale, etc. T'as plus de vie. Et aujourd'hui, ça existe déjà. Les gens se rendent pas compte. Moi, j'ai mon propre fils, une fois, qui voyage beaucoup parce que c'est un chef d'entreprise. Il a voulu prendre l'avion pour aller dans je sais plus quel pays, parce qu'il voyage pas mal. Et ben, il s'est fait arrêter à la frontière. On l'a foutu dans un truc de rétention et les flics sont venus le voir parce qu'il avait oublié de payer une amende. Alors, ça avait suivi son cours. Il était pas au courant. Il avait déménagé, etc. Donc, l'amende avait excédé. Donc, pour un truc complètement en dehors du fait qu'il prenne la frontière, ils l'ont arrêté. Ils l'ont mis dans un bac de rétention et les flics ont failli le foutre en garde à vue. Et donc, il a loupé son avion. Parce que, par l'informatique, ils ont tout pu contrôler. Et ils sont en train de nous préparer ça. Rappelez-vous, le premier truc, quand la carte vitale va être conjuguée à la carte d'identité, je garantis pas que tout le monde ait du travail. Eh ben, ça, c'est la société qu'ils sont en train de nous préparer pour demain. Société libéralisme. Société où tout le monde pourra accéder, ouais, où tout le monde sera contrôlé.
Parler des hautes sphères politiques pour revenir au sujet précédent. Dans votre livre, vous présentez plusieurs dérives et perversions de politiques français présents à l'Assemblée nationale et dans certains ministères. De quoi s'agit-il et pouvez-vous
si je te les cite toutes, il faut 3 heures d'émission. Mais est-ce que c'est normal qu'un type oublie de déclarer 300 000 euros sur sa déclaration de revenus et que quelque part on lui pose même pas de question quand il rembourse et que l'affaire est classée ensuite. Est-ce que c'est normal qu'il y ait une ministre de la santé qui vient d'être nommée et qu'on s'aperçoit qu'elle a touché 20 000 euros ou 30 000 euros du laboratoire Urco, un petit cadeau qu'elle n'a pas déclaré, qu'une autre ministre a oublié de déclarer 100 000 euros à la haute autorité? Toi, t'as le malheur d'oublier de déclarer un truc sur tes revenus. 3 mois après, t'as un redressement. 4 mois après, on te fait vendre ta maison. Et ces gens-là, on leur dit rien. Est-ce que c'est normal? Moi, je trouve pas ça normal. Excusez-moi, hein, je suis peut-être idiot. Et je suis encore moins content quand les gens, maintenant, se disent, c'est normal, hein, c'est des politiques. Non, la politique, ça doit être honnête.
Et dans votre livre, vous parlez aussi de l'usage de la drogue.
C'est malheureusement, on se rend compte de plus en plus que de plus en plus d'élus, de gens qui sont autour du pouvoir, gravitent dans des milieux de stupéfiants. Dans des milieux de stupéfiants. Et il y a quelques affaires qui sortent. Heureusement qu'on arrive encore à faire sortir des affaires. Et je voudrais signaler que la plupart des affaires qui sortent, c'est jamais par les gouvernants eux-mêmes. C'est toujours des individus ou des journalistes qu'on essaye de faire taire, parce que c'est le deuxième accès aujourd'hui à l'information qui est en train d'être bouffée. C'est-à-dire que petit à petit, on essaye de bâillonner les journalistes. Mais de la drogue, des stupéfiants, malheureusement, je me rends compte qu'il y en a de plus en plus autour des gouvernements. Et à la limite, on peut le comprendre. J'ai pas dit que je l'excuse. Mais on peut le comprendre pourquoi. Parce que ces gens-là sont tellement dans le stress, dans la représentation, dans le fait qu'ils doivent toujours être beaux, de toujours être, etc., que du matin au soir, ils ont des trucs à aller voir, qu'à un moment donné, pour tenir, ils se disent, bon, un petit coq de cocaïne, un petit rail de cocaïne, et ça ira mieux. Le problème, c'est que quand tu commences à mettre le doigt là-dedans, tu mets la main. Je rappelle quand même qu'un type comme Jean-Luc Delarue, je sais pas si ça vous parle, qui est mort d'un cancer du pancréas, je crois.
Ancien présentateur TV.
Voilà, hyper connu, etc., utilisait 17 000 euros par mois de stupéfiants. 17 000 euros par mois. Qu'aujourd'hui, il y a encore un type qui s'est fait gauler parce qu'il avait mis des stupéfiants dans le verre de la lunette qu'il avait invité à bouffer chez lui, qui sont pas n'importe quoi. Je rappelle quand même qu'il y a un type, enfin bon, ça c'est au jour, c'est sexuel, qui était le patron de l'ENA ou je sais pas quoi, qu'on a retrouvé avec de la dope et en salopette bizarre dans sa chambre d'hôtel.
Vous citez aussi un fonctionnaire qui droguait des femmes.
Celui-là, je peux plus. Monsieur Nègre. Nègre, notez bien son nom. Qui, pendant 10 ans, a drogué des femmes qui venaient chercher un emploi au ministère, dans les ministères où il était, que c'est de la culture, il a fait pas mal de ministères, et qui lui était un diurétique puissant. Il les faisait traîner pendant 2 heures, il les emmenait se balader, etc., pour les obliger à faire pipi, et il filmait, et il notait toutes les façons dont ces nanettes faisaient pipi. Ce type-là a été couvert pendant 10 ans. Rappelez-vous son nom, c'est Monsieur Nègre. Parce qu'en plus, là où je suis fou, je le mets dans les livres, c'est que quand j'ai découvert l'affaire, j'ai donc consulté les annales journalistiques de cette affaire-là. La plupart des journaux ne mettaient pas son nom. Parce que ce mec-là était un haut dirigeant et un haut fonctionnaire. Et pendant 10 ans, il a été couvert. Il y a 2 femmes qui ont porté plainte, qui ont averti les ministères en 2014 et 2015. Aucun des ministères concernés n'a répondu.
Oui, l'affaire de Christian Nègre m'avait...
Ah ouais, moi je suis foudrage après ce monsieur. En plus, je sais même pas où en est l'affaire, mais elle est en train d'être étouffée royalement.
Finalement, face à ces dérives, dont vous dressez le portrait dans votre livre, existe-t-il encore des contre-pouvoirs en France ?
Alors, il reste quelques contre-pouvoirs, mais petit à petit, on est en train de les étouffer. Je le disais tout à l'heure, la plupart des jeunistes, des journalistes qui sortent des affaires, on leur fait des procès baillons maintenant. La nénette, la journaliste du côté de la Bretagne qui a dénoncé le problème du lisier des porcs qui sont en train d'intoxiquer totalement le rayon, ils lui ont fait un procès et ils ont gagné, et ils sont en train de lui faire vendre la maison de sa grand-mère pour l'étouffer. J'ai 2 copains journalistes qui ont sorti un bouquin contre Monsieur Bolloré, et ces gens-là ont eu un procès où on leur demandait 500 millions de dommages et intérêts. Il y a des journaux comme le Rivali, des médias stream indépendants, c'est-à-dire des petits journaux sur Internet, etc., qui sortent des affaires, etc. Mediacité, qui est un excellent journal par Internet, à chaque fois, ils essayent de faire des procès, des machins. Les journalistes sont de plus en plus surveillés. C'est-à-dire, c'est la première fois depuis 1958, entre guillemets, donc ça remonte, que des journalistes sont convoqués dans les bureaux de la DGSI pour donner le nom de leur informateur. Il y a des lois qui sont sorties aujourd'hui qui favorisent le fait qu'on ne peut plus s'exprimer. La célèbre loi sur le secret des affaires qu'ils ont sortie il n'y a pas longtemps. Ou quelque part, tu ne peux pas savoir le contenu des choses. Quand tu te poses des questions en investigation pour attendre, je voudrais savoir quel produit vous mettez dans vos vaccins ou dans votre alimentation ou dans les produits que nous vendez sur les marchés. On nous sort le secret des affaires pour ne pas nous dire que dedans, il y a du dopalme ou des trucs de fou. Aujourd'hui, malheureusement, on est en train d'étouffer les contre-pouvoirs. Moi-même, je suis administrateur national de l'association Anticorps, et je conseille aux gens d'adhérer à cette association parce que nous sommes totalement bénévoles et nous vivons que de dons, et qui est donc une association qui pouvait se porter partie civile contre des dossiers importants. C'est-à-dire que, par exemple, l'affaire Colère, le secrétaire général de l'Élysée, si on s'était pas porté partie civile, l'affaire aurait été étouffée. L'affaire Benalla, une partie du dossier aurait été étouffée. L'affaire Ferrand, l'affaire du Qatar, sur les Jeux Olympiques, où il y a eu des soi-disant des trucs que nous avons pu, l'affaire Bolloré, puisqu'on a attaqué même M. Bolloré, on a 160 dossiers au pénal. Nous pouvions prendre une affaire qu'on essayait d'étouffer, la donner entre les mains d'un juge indépendant, et nous pouvions nous porter ce qu'on appelle partie civile. Eh bien, ils viennent de nous retirer l'agrément sans aucune raison. Ils viennent de nous retirer cet agrément sans aucune raison. Donc c'est uniquement une décision politique pour empêcher une association de citoyens d'essayer que la justice soit un peu plus propre. Aujourd'hui, on essaye de plus en plus d'étouffer les contre-pouvoirs. D'ailleurs, est-ce qu'il y a vraiment des contre-pouvoirs aujourd'hui? Où sont les syndicats? Je veux qu'on m'explique. Moi, j'ai connu une période où quand les syndicats se levaient, les gouvernements tremblaient. Aujourd'hui, les syndicats se lèvent, les gouvernements rigolent. Rigolent.
Début de l'année dernière, des manifestations, la réforme des retraites est passée.
Mais complètement, parce que les syndicats, on se demande si les dirigeants sont pas, font pas aussi partie des gouvernants. Quand vous avez un type comme le secrétaire général de la CGT, qui au lieu de faire une manifestation commune de des camionneurs, des VTC, des ambulances, etc., et alors qu'ils pouvaient le faire, ils pouvaient le faire. Les camionneurs, les VTC, les pompiers, etc., faisaient une manif le même jour. Mais le gouvernement, il cédait, hein. Parce que tu bloquais les accès de Paris avec les pompiers, les VTC, les camionneurs, etc. Le gouvernement, il cédait. Qu'est-ce qu'il a fait, les syndicats? Non, non, on fait une petite manif des camionneurs le mardi, on fait une petite manif le mercredi pour les VTC, Tu te poses des questions. Tu dis, où ils sont les contre-pouvoirs? Comment tu veux que les gens y croient? Comment tu veux que les gens adhèrent au syndicat derrière?
En dehors des journalistes, il n'y a pas d'institution qui
peut faire
contre-pouvoir, les grands médias.
Mais les grands médias, il y en a qui? Ils sont tous maqués par une dizaine de... Est-ce que tu as déjà entendu, dans les journaux qui appartenaient à Dassault, des critiques de Dassault? Est-ce que tu as déjà entendu à Canal+, qui appartient à un parti à Bolloré, des critiques contre les affaires de Bolloré au Togo? De plus en plus, les médias sont aux ordres. Il y a encore très très peu de journaux indépendants. Quoi, il y a quoi? Le Canard enchaîné. Et encore, ils sont en train d'essayer de le casser par des pseudo-affaires qui ressemblent. Mediapart. Je commence à chercher, là, tu vois. Des journaux qui sont vraiment indépendants. Après, il y a des petits journaux comme Mediacité qui survivent. Qui vivent sur le nombre d'abonnés. Sauf que là aussi, ça va pas aller loin. Parce que aujourd'hui, comment tu veux que ces gens-là... Ils ont 2000, 3000, 4000 abonnés qui donnent tous les mois quelque chose. Mais à un moment donné, les gens, comme ils sont de plus en plus pauvres, ils pourront plus donner partout. Donc ces médias indépendants qui, pour l'instant, survivent, sont malheureusement appelés à mourir. Et je le vois, parce qu'ils arrêtent pas de s'en... Il y a Pouge de Nicolas Vidal qui font un excellent travail d'investigation ou de contre-pouvoir. Mais à un moment donné, les gens ne pourront plus payer. Parce que le système qui est en train de se mettre en place fait que tu t'occupes uniquement de ta gueule, t'auras même plus le temps de payer un petit journal pour avoir de l'information.
Demain, si vous avez le pouvoir,
ouais,
que faites-vous?
D'abord, j'aurais jamais le pouvoir, parce que dans le système actuel, ça devient de plus en plus difficile. Si j'avais le pouvoir, déjà, casier judiciaire vierge pour tous mes élus, c'est le premier point, je défends ça depuis 2013, et je continue à le défendre, parce qu'il est toujours anormal que pour travailler dans... Je dis une bêtise, parce que j'en avais référencé 396, mais il y en a plus de 600. Dans 600 métiers en France, il faut que tu présentes un casier judiciaire vierge pour travailler, et que dans certains endroits, il faut même que tu le présentes tous les ans, alors que tu peux diriger la mairie, une mairie, en ayant un casier chargé. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je suis pour vraiment une limitation des mandats. Je veux dire, un mandat, ça suffit. C'est-à-dire qu'en tant qu'élu, maintenant, avant, tu faisais ton service militaire, t'allais un an pour défendre la patrie, entre guillemets, hein, je pèse mes mots, tu rentrais chez soi, tu reprenais ta vie. Je trouve qu'aujourd'hui, tu veux devenir élu, tu fais un mandat, puis tu rentres chez toi. Le fait qu'il y ait plusieurs mandats, c'est la porte ouverte à ce que les mecs commencent à magouiller. Alors, on te dit deux mandats, etc. Non, un mandat. Tu fais un mandat, tu rentres chez toi. Une fois député, tu rentres chez toi. Que les gens n'aient pas le temps de s'installer dans le confort d'élu. Et j'en parle à connaissance de cause. J'ai fait 25 ans d'élu. C'est un bonheur d'être élu aujourd'hui. Donc réduire déjà les émoluments des élus, les à côté des élus. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, un élu, par exemple, paye deux fois moins d'impôts qu'un salarié? Ah ouais, je sais, ça étonne tout le monde. Je vais t'expliquer comment. Moi, par exemple, j'ai 70 ans maintenant, j'ai eu toujours deux, trois boulots en même temps. 6 enfants à nourrir, hein. Donc il faut les nourrir. C'est sur la somme de ces trois boulots que je payais des impôts. Tu me suis? Donc, je vais dire une bêtise, 1000 euros dans un boulot, 2000 euros dans l'autre, 1000 euros dans l'autre, 4000 euros. Je payais donc des impôts sur 4000 euros. Donc, mon taux de pourcentage d'impôts augmentait. Les élus, c'est pas ça. Ça paye des impôts sur chaque mandat d'élu. Donc, quand ils cumulent plusieurs mandats d'élu, ils ne payent des impôts qu'à hauteur du mandat où ils sont. Donc, s'ils ont un petit mandat local à 2000 euros, ils ne payent des impôts que sur 2000 euros. S'ils ont un mandat de député en plus, ils payent des impôts que sur 5000 euros. Et non sur le total des deux. Ça change vachement ton taux d'imposition. Donc, il y a plein de petits trucs comme ça qu'il faudrait remettre de l'ordre, déjà pour, si j'étais au pouvoir. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, toujours un ex-député, écoute bien ce que je dis, hein, un ex-député, c'est-à-dire j'ai été député il y a 20 ans, d'accord? Sa femme et ses enfants, quand ils meurent, touchent un chèque de 2500 euros. Expliquez-moi. Moi, j'ai bossé chez Renault il y a 20 ans, je meurs au bout de 20 ans, Renault ne m'offre pas une voiture. Hein. Et bien là, les élus, si. Un ex-député touche 2500 euros à sa mort. Enfin, sa veuve. Hein. Si c'est sa femme, il touche aussi 2500 euros. Les sénateurs, parce qu'on a essayé de foutre la merde. Alors, c'était plus avant, c'était 18 000 euros. Hein. C'est quand on l'a fait paraître dans la presse qu'ils ont réduit. Les sénateurs, c'est 21 000. Ex-sénateurs. Donc, j'ai été sénateur il y a 6 ou 7 ans. Je meurs, mon épouse touche 21 000 euros. C'est pas un bonheur d'être élu. Donc, ça, je peux te faire une liste exhaustive et excessive et non exhaustive de tout ce qu'il faudrait changer si j'avais le pouvoir. Mais la première des choses, c'est changer le système. Changer les hommes, ça sert à rien si tu changes pas le système, et je peux te donner un exemple bien précis. Mai 2017, ça te parle? Moi aussi, hein, c'est un type qui se prenait pour Kennedy, on s'était fait baiser par la droite, moi j'ai pas voté pour lui parce qu'il m'a menti.
Et qui avait promis de mesure sur le
changer
judiciaire.
Ouais, d'avoir une France. Ah oui, mais non, ça il m'en veut, celui-là, il m'a menti bien. Mais donc en mai 2017, on a viré les vieux politicards, enfin presque tous, on a repris des gens de la société nouvelle. C'est comme ça qu'ils nous l'ont présenté, il y a des chefs d'entreprise qui se sont présentés, etc. C'est des gens qui n'avaient jamais fait de politique. Qu'on me dise pas que c'est pas vrai, j'ai les chiffres. Là, sur un des mandats des députés de M. Macron, 87 députés ne sont pas venus à l'Assemblée nationale pendant un an et demi. Aujourd'hui, les soi-disant nouveaux élus que nous a amenés M. Macron ont été pires que les anciens politiciens. Ça prouve quoi? Ça prouve que c'est pas les hommes qu'il faut changer. Ça prouve que c'est le système qu'il faut changer. Il faut mettre en place une partie du RIC en France. C'est clair, si j'avais tous les pouvoirs, je mettrais en place. Comment ça se fait qu'on peut pas virer un élu aujourd'hui?
Le référendum d'initiative citoyenne.
Comment ça se fait qu'aujourd'hui, où ils nous ont mis un, parce qu'ils nous ont mis un référendum d'initiative populaire, c'est là où ils sont menteurs, où il faut 14 millions, je dis une bêtise, 14 millions de signatures pour commencer à envisager de pouvoir...
Oui, c'est plusieurs millions.
Mais non, mais c'est non seulement, puis il y a plusieurs cliquets. C'est-à-dire que ça suffit pas que les gens imaginent, il faut qu'il y ait encore une assemblée, deux tiers de l'assemblée qui te disent, etc.
C'est impossible, pratiquement.
Mais c'est quasiment, c'est fait exprès. C'est de la fausse démocratie. On te dit, tu peux le faire. Mais le parcours est tellement compliqué que tu le fais pas, quoi. Les gens peuvent pas le faire. C'est un truc de fou. Donc, le RIC, il faut le mettre en place. Il y a plein de choses qu'on peut faire si on est élu. Il y a changer le système des élections. Je dis pas que l'élection aujourd'hui est pas bonne. Alors, c'est un truc auquel il faut que je vous avertisse parce qu'ils sont en train de nous le préparer aussi, hein. Continuez à pas aller voter. Allez-y, il y a des endroits où il y a 90% de gens qui vont pas voter. Ils sont en train de nous mettre en place un système qui va être le vote électronique. Et en plus, ils vont nous l'annoncer comme quoi c'est pour lutter contre l'abstention. Et les gens vont être d'accord en plus. Tu te rends compte? T'as plus besoin de te déplacer le dimanche.
Quels sont les risques?
Je vais te le dire. Mais je te donne comment ça va être vendu déjà, pour que les gens comprennent bien. T'as plus besoin de te déplacer le dimanche. Tu peux faire ça chez toi, tranquille, en famille, tu voteras, t'as une semaine pour voter, si tu votes le soir, tu votes le soir, c'est vachement plus pratique. Et puis surtout, ne vous inquiétez pas, hein. C'est sécurisé. Moi, je vais vous dire, il y a un truc, si le vote électronique se met en France, comme il existe déjà dans 62 villes de France, la démocratie, elle est morte. Morte. Et pour une raison bien simple, c'est que le vote électronique, tu peux pas recompter les bulletins. Donc même si tu supposes qu'il y a une magouille, même si tu subodores qu'il y a un vote, comme dans certains pays, où il y a 80% de gens qui votent pour une personne et 20% pour les 17 autres candidats, même si tu subodores qu'il y a eu un trucage, le vote électronique, tu ne peux pas raconter les bulletins. Pourquoi? Parce que les bulletins, c'est un zéro et c'est une croix. Comment tu recomptes les bulletins? Comment tu sais que c'est attribué à telle personne? La seule façon qu'on aurait de recompter les bulletins en vote électronique, c'est de donner le nom des gens. Parce que chaque nom aurait l'attribution d'un vote. Mais donc, ça ne se fera jamais. Le seul vote aujourd'hui qui peut être intéressant, c'est le vote avec un bulletin papier. Pourquoi? Parce qu'avec le bulletin papier, même s'il y a encore des épiphénomènes de truandage, il y a quelque temps, encore il y a 10 ans, on a chopé un mec qui mettait des bulletins dans ses chaussettes. C'est peanuts sur le nombre de votants. C'est peanuts. Et l'avantage du bulletin papier, c'est que tu peux recompter. Et comme tu as le candidat A, tu as le candidat B, tu as le candidat C qui regarde des bulletins, ça devient plus difficile de trouver. Un des trucs que je ferais aussi, c'est de rendre le vote obligatoire. Je vous explique pourquoi. Parce que quand tu as 90% de gens qui ne vont pas voter, t'as donc, je résume, hein, t'as donc 10% de gens qui votent, ok? Donc si tu veux truander sur 10 bulletins, c'est facile. Il faut grosso merdo que t'en mettes 3 à toi sur les 10. Tu me suis? Parce que 3, t'en as 2 qui ont voté pour toi, ça fait 5. T'en as 5, t'as la majorité avec une abstention. Si t'as 100% des gens qui votent, ça devient déjà beaucoup plus compliqué de truander. Parce qu'il faut que tu augmentes le nombre de truandages pour avoir les majorités.
C'est vraiment répandu, la fraude?
Non. Aujourd'hui, en France, la fraude, c'est que dalle. Hein. Il y en a encore. En 2014, j'ai gaulé une ville en Corse. Mmh. En Corse. Il y a eu 110% de votants par rapport aux listes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient au cimetière qui étaient venus voter.
Ils n'ont pas vraiment besoin de frauder pour...
En Corse en
place. Non, mais je parle en général.
Ah ben si. Parce qu'il faut une image de démocratie.
Oui, c'est ça.
C'est uniquement ça.
J'allais vous poser la question, justement. Demain, vous avez tous les pouvoirs. Oui. Comment vous réglez la question de l'information du peuple par les médias?
Ah ben, déjà, je ponds des lois pour interdire le cumul des médias à certains industriels. Interdire.
Par exemple, Bolloré, il aurait le droit d'avoir qu'un seul média?
À la limite. Okay. Allez, un. Comme le cumul des mandats. Mais pas des trusts. Pas des trusts. Et à un moment donné, je demanderai aux médias d'être totalement indépendants. Ça veut dire mettre en place. Et ça peut se faire, hein, parce que moi, je suis pas contre qu'on donne des subventions aux médias, malgré le fait qu'on nous bourre la tête en disant « Ouais, c'est pas normal, les médias vivent des subventions, etc. etc. » Non, non, moi, ça me gêne pas. Parce que, là, encore une fois, les gens ont une vision à court terme et de l'instant T de comment on les manipule. Si les médias n'ont plus de subventions d'État, un État rigoureux et indépendant, qu'on soit d'accord. Comment ils vivent?
C'est pas rentable.
Mais non, c'est pas rentable, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils se rabattent sur les privés pour continuer à exister.
Ils seront à la main de publicités.
Ils seront à la main des publicités, etc., etc. Donc il faut redonner des sommes, entre guillemets, pour que les journaux aient la diversité de l'information puisse exister, mais garantir l'indépendance de l'argent que tu donnes. Est-ce que je suis clair? Et ça se fait, hein. Par exemple, mais ils suppriment au fur et à mesure. Hein. Il y a une copine qui est morte là il y a pas longtemps, comment ça s'appelait, qui était députée européenne. Elle a monté un truc qui s'appelait la CRIRAD, qui permettait d'étudier les contenus de certains organismes qu'on nous faisait ingurgiter, etc., etc., qui était totalement indépendante, mais qui recevait des subventions d'État. Il n'y a pas de honte à recevoir une subvention d'État, à partir du moment où l'État ne contrôle pas ta parole derrière. Par contre, ça leur garantit une existence. Alors que si on supprime toutes ces subventions, c'est les privés qui vont mettre du pognon. Et si c'est les privés qui mettent du pognon, eux, ils voudront surtout pas qu'on touche. Là où c'est pas logique en ce moment, et là je suis foudrage là-dessus, c'est que les privés qui pourraient, entre guillemets, payer les journaux, en profitent pour recevoir des subventions d'État. C'est-à-dire que Bolloré, plein de ces canards sont subventionnés par l'État. Là, ça devient... complètement fou, parce que l'État fout du pognon, mais n'a aucun contrôle sur ce que Bolloré impose aux journaux. Là, je suis pas d'accord, non plus. C'est soit là, tu veux monter ta boîte, ton journal privé, monte ton journal privé. Mais aucune subvention d'État, quoi. Par contre, il faut pouvoir monter des contre-pouvoirs indépendants. Et l'État ne le fait pas. Quand tu vois qu'aujourd'hui, ils sont en train de supprimer les pubs sur France 2, sur un tas de choses, qui permettaient à France 2 d'être indépendant. Eh ben, ils sont en train de les supprimer. C'est un truc de fou. Pour mieux la contrôler, hein, pour mieux les contrôler. C'est là où c'est un jeu qu'il faut faire très attention. Faut faire très attention.
Merci Philippe Pascaud.
C'était un plaisir. Je reviens quand vous voulez.
C'est la fin de cet entretien. Je rappelle que vous êtes l'auteur de l'ouvrage Le pouvoir du pire aux addictions Max Milo. Je remercie nos auditeurs pour leur écoute. N'hésitez pas à vous abonner et à partager cette émission. Et puis à très bientôt sur Mise en TV. Merci Philippe.
Au revoir, à bientôt.